France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Dominique, Cécile et Isabelle. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Pour cette rentrée, la photographie est à l'honneur avec l'exposition Fragments, portraits et photos de rue organisée par Rose Lecomte à Angers à la galerie Art V12. Et nous recevons aussi Étienne Bégoin, photographe et grand amoureux des paysages naturels, qui vient de publier un ouvrage consacré aux 100 lieux insolites à découvrir en Anjou. Tout de suite Cécile, on reste toujours dans l'art visuel et un voyage sous-marin avec le peintre Florent Motion. C'est intriguant et le lieu de l'exposition l'est tout autant. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Florent Motion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre, un peintre prolifique. On vous connaît notamment pour vos grandes fresques, hein. Il y en a notamment sur les façades du musée des blindés à Saumur, ou encore sur des grands silos immenses à Auxerre, mais aussi pour des œuvres très différentes, plus intimes, comme les portraits que vous avez réalisés au tribunal d'Angers. Bon, ce sont que des exemples, il va être difficile de résumer votre travail. Vous exposez actuellement aux Invalides une partie de vos œuvres, vous avez d'ailleurs eu le prix spécial du jury à cette occasion, et à partir du 13 septembre commence en Anjou une grande exposition qui s'appelle « Voyage sous-marin ». Elle aura lieu dans un lieu atypique et assez fascinant, hein, c'est Bois 2, les anciennes mines de fer dans le Segréen. On va commencer par parler de l'exposition. Est-ce que c'est une plongée dans le grand bleu ? Sur votre affiche, on a l'impression que c'est votre atelier qui est complètement immergé dans l'eau. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette plongée dans les mers ?
Alors, c'était pour... Avec Eric Sanchez, c'est la personne avec qui, que j'invite,
qui est un sculpteur.
Sur métal. Donc, on cherchait une sorte de fil conducteur. Et je pense que ça, voilà, moi qui suis dans les poissons en ce moment, enfin je peins beaucoup les poissons, les carpe-coï ou aspiration japonaise, voilà. Et son travail pourrait faire penser aussi à une sorte de monde de Jules Verne, enfin
ouais, un 20 000 lieux sous les mers,
un petit peu. C'est voilà, enfin c'est un peu la dominante de l'exposition, mais enfin bon, moi je garde beaucoup d'autres sujets, j'expose beaucoup d'autres sujets, voilà, c'est ce qui nous lie un petit peu tous les deux.
Donc les deux fiches,
oui.
Mais vous avez des thèmes extrêmement variés, j'ai essayé de le dire un petit peu en introduction, vous touchez à beaucoup, beaucoup de sujets. Vous avez déjà parlé, du Japon, c'était un peu ma question, vous avez vécu au Japon, et dans votre inspiration graphique, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit peu de la peinture japonaise.
Oui. Oui, oui.
Parce que vous avez pris des cours au Japon ou c'est simplement l'univers des peintres japonais qui vous a guidé ?
Oui, c'est l'univers, le fait d'y avoir passé une douzaine d'années. J'avais un petit atelier au nord de Kyoto donc pendant une douzaine d'années. Et puis j'ai beaucoup peint là-bas, mais enfin je faisais beaucoup de décorations. Donc ça pouvait être souvent pour des boulangeries, mais ce qui m'a permis de voyager aussi sur l'archipel du Japon, un peu partout. Et donc, c'est peut-être inconsciemment, mais oui, j'ai tendance à avoir
un petit trait un petit peu. Et d'ailleurs, en fait, c'est encore un lien avec les poissons et la mer, puisque vous avez peint les marchés aux poissons de Kyoto, je crois.
Oui, à une époque.
Dans de magnifiques tableaux.
Merci.
Je ne sais pas s'ils seront exposés cette année ou pas.
Non, parce que j'essaye de le plus possible. Là, c'est une exposition que je fais, j'organise tous les deux ans à l'atelier, et j'essaye le plus possible de mettre des nouvelles toiles. Et donc là, le marché aux poissons, il n'est pas là. Il sera
alors,
pas dans l'exposition.
Le site de votre atelier, Centrale 2.
Centrale 2, oui.
C'est ça, parlez-en, parce que c'est un endroit un peu magique.
Oui, alors c'est les anciennes mines de fer, même si on est à deux pas de la mine bleue. Je ne sais pas si les gens, enfin en général, les gens connaissent bien la mine bleue. Ça sert un petit peu de référence géographique, mais on est à vol d'oiseau si on est à 3 km. Mais là, donc, ils extrayaient du minerai de fer. Et donc c'est la centrale 2, le nom de l'atelier, enfin de mon atelier dans lequel j'expose. Elle est avec le puits numéro 2. Donc il y a centrale, enfin bois 2, bois 1, centrale 2, centrale 1 et centrale 3 aux côtés. Voilà, je...
Oui, et donc c'est un immense...
C'était une salle des machines à l'origine, oui.
Oui. Une salle des machines. Dans une salle dans laquelle il reste encore des machines.
450 mètres carrés, oui. Ouais. Elle est construite en 1916. Et donc voilà, enfin, le bâtiment est assez remarquable, assez beau, je trouve.
Et vous êtes entouré d'autres artistes, parce que vous n'êtes pas le seul artiste installé là.
Voilà, en face, il y a la Centrale 7, c'est un collectif. Avec pas que des peintres ni que des sculpteurs, des photographes, enfin plein de gens.
Voilà, donc un endroit à découvrir. Oui. Parlez-nous de votre invité sculpteur.
Alors il s'appelle donc Eric Sanchez. Il travaille là. Je lui prête une partie de mon atelier dans lequel il fait son atelier de sculpture. Donc il a une petite forge. Et puis, il travaille ici depuis presque 3 ans. Et il fait en parallèle aussi d'autres travaux. Il va travailler pour des vitraux, par exemple. Enfin, il ne fait pas les vitraux, mais ce qui maintient les vitraux.
Les armatures.
Les armatures. Donc pour Chartres, Reims, enfin, pas mal de temps en temps, en fait. Ça fait partie aussi
de son travail.
De son travail. Et puis, donc, il fait un travail remarquable, absolument superbe. Souvent, ça raconte même des histoires. Chacune de ces sculptures ont un petit côté fonctionnel ou ludique. C'est de très haut niveau.
D'accord, donc d'où le lien avec 20 milieux sous les mers.
Oui.
Pour terminer, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, je voudrais que vous parliez d'un autre volet de votre activité. Enfin, je l'ai évoqué indirectement puisque vous exposez aux Invalides. Vous êtes peintre de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Alors, qu'est-ce que c'est peintre de l'armée de terre et de l'armée de l'air ?
C'est quelque chose qui existe depuis environ 3 siècles. Et donc à l'origine, c'est un petit peu les toiles qu'on peut voir dans les musées, ce qui raconte un petit peu l'histoire des batailles. Donc depuis l'invention de la photographie, je ne sais pas trop pourquoi ça existe encore, mais enfin bon, c'est toujours là. Donc il y a les trois armes, l'air, la terre et la mer. Moi, je suis en air et en terre. En terre depuis 2011, depuis 2007, et en air depuis 2011. Ah, donc de temps en temps, j'interviens sur, on appelle ça des missions. Donc la dernière, c'était sur une base de l'OTAN en Estonie, où c'était des exercices, ils appellent ça de combat de haute intensité. Donc pendant une semaine, je suis en immersion avec la Légion et j'essaie de faire ce que je peux, alors des croquis. Donc j'expose en ce moment environ 6 toiles aux Invalides et le reste de ma série sur l'Estonie. Dans le sous-sol de la centrale 2.
De la centrale 7.
Voilà.
Parfait.
Donc on pourra les voir aussi.
Oui. Merci beaucoup, Florent Motion.
Merci.
Florent Motion, merci. L'exposition Voyage sous-marin aura lieu du 13 au 28 septembre, vendredi, samedi, dimanche, de 16h à 19h. C'est donc Florent Motion, peintre, et Eric Sanchez, sculpteur. C'est à l'atelier centrale 2, dans le Segré 1, Nioiseau 13 exactement.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Étienne Bégoin, bonjour.
Bonjour.
Alors avec Dominique, vous nous présentez un guide insolite sur l'Anjou, où il est question d'ailleurs de Nioiseau Bois 2. Insolite sur l'Anjou, intitulé « 100 lieux pour les curieux » qui sont des sites d'architecture, des boutiques, des jardins, des ateliers et des lieux culturels.
Oui, Étienne Bégoin, vous êtes photographe, vous êtes formé à l'École des Beaux-Arts de Bourges et depuis 30 ans, vous portez un regard tout à fait contemplatif sur des paysages naturels. Mais depuis 2020, vous avez pris la plume pour compléter ces témoignages à travers des ouvrages sur les espaces naturels pour l'Anjou, la Loire-Atlantique, le Cher et bientôt, au printemps prochain, me dites-vous, la Vendée. Mais parlons d'abord de votre dernier ouvrage, Anjou, 100 lieux pour les curieux. C'est un ouvrage qui est sorti en avril dernier. Vous passez donc très volontairement sous silence les grands sites touristiques pour aller directement à la découverte de vos coups de cœur et de vos rencontres. Moi, la première chose qui me frappe dans votre ouvrage, c'est que vous essayez de nous sensibiliser au patrimoine industriel du 19e siècle à travers les sites miniers de Chaux-de-Fonds, de Noyant, dont on vient de parler, de Nioiseau, les moulins de Sarré à Gênes, de Gesté à Grésillé, ou encore le moulin de la Roussière sur les bords de la Mayenne. D'où vous vient cette inspiration pour le patrimoine du siècle dernier ?
Par une fascination déjà. Alors, il faut dire que j'ai fait des photos de sites naturels depuis quelques années, mais j'ai fait aussi pas mal de photos de sites industriels depuis une trentaine d'années. C'est quelque chose qui m'a toujours surpris, même de voir des énormes silos en béton qui surgissent dans la campagne, par exemple. Et puis, quand je suis arrivé en Anjou, j'ai vu tous ces sites industriels. J'ai découvert notamment les anciennes mines de fer à Nioiseau, mais aussi tous les anciens sites industriels qui ont donné naissance à des sites naturels, justement. Il y a une jonction entre les deux, hein,
Les natures réinvestissent.
Voilà, c'est ça, à Trélazé, le parc de l'étang Saint-Nicolas, même le lac de Maine, hein, tout ça, c'était d'anciens sites d'extraction, donc il y a forcément un lien. Et puis quand la nature reprend ses droits aussi dans les sites industriels, c'est toujours intéressant, il y a toujours au niveau de l'émotion que ça procure aussi, c'est quelque chose qui de déambuler dans ces sites, c'est extraordinaire parce que c'est plein de surprises, quoi.
Et vous remettez en valeur toute l'histoire de la meunerie dans l'Anjou.
Tout à fait.
Les moulins à vent, les moulins à eau, les rivières, les coteaux. Et vous nous décrivez de très près les mécanismes et les modes différents de moulins.
Oui, on a oublié qu'il y avait des milliers de moulins qui tournaient en Anjou. Alors il en reste quelques-uns, il y a quelques moulins caviers encore, notamment qui sont un type de moulin qui est unique en France, qui est plutôt dans le Saumurois, mais il y en a très très peu qui ont des ailes, par exemple, on en reparlera. J'ai trouvé quelqu'un qui a par exemple restauré un moulin, le moulin de Gâté, là. C'est intéressant au niveau... de notre patrimoine commun. Et puis
ce sont des marqueurs aussi dans le paysage naturel, c'est évident.
Oui, tout à fait. Oui.
On se repère quelquefois grâce à la présence des moulins qui émergent du paysage.
Oui.
Vous attirez également dans votre ouvrage notre attention sur les lieux de création artistique. Ça, c'est aussi un peu nouveau et vous sortez un peu des sentiers battus. Alors, je cite la galerie de Richard Rack.
Oui.
Ça, c'est tout à fait étonnant. Moi, une chose que je ne connaissais absolument pas, l'hélice terrestre de l'Orbière à Saint-Georges-des-Sept-Voies.
Oui.
C'est la maison du facteur cheval en Anjou.
Oui, c'est un espèce, on peut dire, le facteur cheval dans le sens où...
C'est une création spontanée.
Oui. Mais par contre...
Qui s'est étendue sur une dizaine d'années, j'imagine.
Oui, ça s'est étendu sur une dizaine d'années.
Oui.
C'est une création spontanée, mais alors à la différence du facteur cheval, quelqu'un qui avait fait des études artistiques déjà, qui avait fait les beaux-arts et qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire et pourquoi il le faisait. C'était pas ce qu'on appelle de l'art brut, hein, quelque chose de spontané, on ramasse, on amasse, etc.
Oui.
Là, il y a vraiment
très
pensé,
et scientifique.
Très scientifique, très intellectuel, et en même temps très sensuel. On n'a pas besoin de savoir exactement où ce créateur veut en venir, on peut juste aller visiter. En fait, si j'en dis un mot là maintenant, c'est une espèce de sculpture où on entre dans la sculpture.
En fait. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une construction qui sort complètement de l'ordinaire et qui pourtant est habitée, qui est utilisée. C'est pas simplement une sculpture, c'est un habitat.
Alors, l'habitat est à côté. En fait, cette sculpture, on l'invite à rentrer comme si c'était dans le ventre d'une bête. Et puis à l'extérieur, il y a des formes qui se répondent en convexe, c'est tout le jeu de convexe, concave aussi, comme si c'était deux formes qui s'emboîtaient. Mais c'est situé dans un ancien village troglodytique.
Bien sûr.
Avec effectivement des gens qui habitent. Et le créateur, là, qui s'appelait Jacques Warminski, a habité là longtemps. Et malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque. Je pense qu'il avait tellement travaillé sur cette œuvre-là que ça l'a tué, quoi. Voilà.
Alors, vous nous présentez aussi les travaux du sculpteur Christophe Allier.
Oui.
Ça, c'est tout à fait étonnant. J'invite tout le monde à aller voir ce personnage et les créations qu'il a installées dans un troglodyte également.
Oui, alors c'est un village troglodytique, c'est au Toureil, hein, oui. Enfin, il y a des sites troglodytiques. Après, son site à lui n'est pas vraiment troglodytique, enfin si, il y a une petite partie quand même, mais bon. Mais en tout cas, les sculptures sont dans son jardin et il travaille beaucoup à partir de récupération de bois flotté notamment, ou d'anciennes pierres qu'il récupère, il fait des assemblages. Et c'est des sculptures un peu spontanées en partant des matériaux. Qu'est-ce que ça peut lui inspirer ? Il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et ce qui est intéressant, c'est le personnage aussi. C'est quelqu'un.
D'accord, on peut avoir avec lui un échange voilà. Tout à fait constructif.
Et c'est quelqu'un qui a appris la sculpture sur le tard, de façon totalement autodidacte. Mmh. Et c'est quelqu'un de très attachant quand on va le voir, et très gentil. Ouais.
Alors, dans votre ouvrage, vous nous faites aussi découvrir des monuments oubliés, notamment le château de la Turmelière. Oui. À Liray, ça c'est quand même tout à fait particulier. J'ai envie aussi avec vous de parler du prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, mmh. ou bien de la cave aux sculptures de Denzé Soudoué. Mmh. Lequel vous voulez qu'on aborde en premier ?
La cave aux sculptures, par exemple.
La cave aux sculptures, oui, absolument.
Ouais, c'est incroyable cette.
Oui. C'est à Denzé.
Denzé Soudoué, oui. C'est entre Douai-la-Fontaine et Brissac.
Voilà, c'est ça.
À mi-chemin.
Et c'est tenu, alors déjà, c'est tenu par une association qui sont les descendants, en tout cas pour partie, de personnes qui ont vécu là, quoi, et qui allaient, quand ils étaient enfants, voir ce lieu, qui est en fait une galerie de sculptures qui date sculpture oui. médiévale, et on sait pas trop exactement
ouais,
daté ouais. d'ailleurs.
Début ouais. d'époque classique peut-être.
Oui, ouais, c'est ouais, ça.
Ouais. Guerre de religion.
Voilà, c'est pendant les guerres de religion en tout cas. Et en fait, c'est une espèce de foison de sculptures, de personnages. Ouais. Des fois, il y a même des scènes érotiques. Il y a des scènes sans doute qui se moquent un petit peu de la royauté. Et alors le drame aussi, c'est que c'est tenu par une association qui n'a pas beaucoup de moyens et ces sculptures sont en train, pour partie, de disparaître.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais ce qui est très énigmatique, c'est qu'on ne saura jamais exactement pour qui et pourquoi et par qui toutes ces sculptures sont nées.
Non, parce qu'on n'a pas vraiment de traces écrites précises, donc il n'y a que des interprétations là-dessus.
Ouais. Ouais. Mmh. À visiter absolument. Ouais,
je me permets la de poche. On a fait une émission.
Bien sûr, bien sûr.
Allez chercher sur radiocampus.com dans nos podcasts. Ouais. Étienne Bégouin, allez-y.
Autre chapitre, vous nous lancez à la recherche des musées insolites. Et il y en a quand même quelques-uns, notamment dans le Beaugeois.
Oui.
Je pense à celui de Joseph Denet à Beaufort, en Valais, devant l'église.
Ouais.
Mais encore plus à celui de Jules Desbois à Parçay.
Ouais.
Jules Desbois, il a ses sculptures au musée d'Orsay à Paris.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est quand même un personnage nationalement reconnu.
Oui.
Et pourtant, son musée ne reçoit pas autant de visiteurs que le musée d'Orsay à Paris.
Et c'est quelqu'un qui est vraiment à découvrir parce que... c'est un petit peu l'injustice de l'histoire des arts. On se demande pourquoi Jules Desbois n'est pas plus reconnu, parce qu'il a travaillé avec Rodin, notamment.
Bien sûr.
Voilà. Mmh. Et notamment, il y a des sculptures incroyables de Jules Desbois, très réalistes, sur la misère humaine, sur la décrépitude des corps. Et en plus, tout ça se situe dans un petit village. On ne s'attend pas du tout à avoir un musée comme ça, qui est très joli. Très bien éclairé. C'est vraiment très agréable à visiter et très émouvant, en tout cas, de ce qu'on peut y voir.
Le dernier musée dont vous parlez, alors il est lui peut-être un peu plus connu, et encore, c'est celui du sculpteur David d'Angers, rue Toussaint. C'est vrai que c'est un monument qu'il faut aller voir et revoir, et peut-être beaucoup de gens ne l'ont pas encore vu.
Oui.
Et c'est tout à fait intéressant que vous l'ayez bien intégré dans votre ouvrage, même si on parle de lieu insolite.
Oui, tout à fait. Alors, c'est insolite aussi par rapport à cet espace, cette grande verrière. Et puis, on arrive, on est totalement écrasé par ces sculptures monumentales. On sent tout petit. Il y a un côté néoclassique un peu imposant.
Mais David d'Angers, il est connu. Beaucoup plus que Jules Desbois.
Toute l'histoire de l'Anjou est retracée au travers des sculptures de David d'Angers.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais peut-être que les Angevins n'ont pas forcément l'idée d'y aller.
Et pourtant, il est aussi admiré au musée d'Orsay à Paris.
Oui, tout à fait.
Mais c'est le lieu encore, parce que plus personne ne se souvient de l'abbaye Toussaint en ruine, romantique. Non, maintenant, c'est devenu une immense verrière.
Oui.
J'aimerais que vous nous parliez de vos coups de cœur. Moi, j'étais ravi de voir en couverture de votre ouvrage l'abbaye de la Baumette à Angers. Je crois que c'est vraiment un lieu magnifique. Cet éperon rocheux de la Maine qui permet d'avoir des vues en perspective sur la ville d'Angers assez particulière, comme sur la Maine qui va jusqu'à la pointe. Vous parlez aussi, oui, des bunkers de Pignerolles. Ça, oui. C'est une chose effectivement que sûrement beaucoup de gens peuvent ignorer. Mmh. Et puis, alors le dernier, c'est le plus étonnant, le bistrot l'Atypique à Volandry. Alors parlez-nous un peu de ces trois sujets pour terminer notre entretien.
Alors les trois sujets, ben, on va commencer par l'un. L'Atypique à Volandry. Oui, oui. C'est une dame qui a ouvert ce bistrot. Alors il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas vraiment de jour d'ouverture, il faut arriver, il y a une cloche à l'extérieur, elle disait « sonnez-moi, je ne suis pas loin ». Alors bon, on prend une grosse cloche en fer, bon, on sonne. Et en fait, elle ne fait que des jus ou des sorbets à base de fruits frais, de légumes frais du jour, de saison. Et alors, on a des saveurs extraordinaires. Et tout ça dans un petit, comme si on était dans son jardin un peu, mais on est en face de l'église, et puis dans sa cuisine un peu. Voilà. Bon. Et elle arrive, on a l'impression d'avoir une palette. Elle nous présente une palette de jus.
Pour tous ceux qui vont aller chercher des champignons en forêt de Chandelay là, dans les semaines qui viennent, nous pouvons les inviter à aller fréquenter ce restaurant l'Atypique.
Elle est très sympathique. Ouais. Et vous voulez que je parle
alors la Baumette, oui, parce que c'est.
Alors l'ancien couvent de la Baumette.
C'est un site magnifique.
C'est un site magnifique déjà par sa situation. Effectivement, on est au-dessus des vallées humides d'Anjou. On le visite vraiment avec parcimonie parce que c'est ouvert en saison une après-midi par mois ou une journée par mois, peut-être le dimanche, à vérifier dans mon livre, je ne connais pas tout par cœur. Mais en tout cas, c'est la famille qui fait visiter et c'est un lieu qui est creusé dans le schiste. Il y a notamment un cloître qui est creusé dans le schiste. On se demande comment ils ont réussi à évacuer des tonnes de schiste comme ça pour construire, édifier ce cloître. Il y a l'église aussi, pareil, qui est creusée dans le schiste. Et puis tout ça, c'est sur le relief de l'éperon rocheux. Ils utilisent des terrasses. Enfin, ça crée des terrasses naturelles avec un escalier aussi creusé dans le schiste à l'extérieur. Voilà.
Alors, il y avait sur ce site-là, je crois, une tour d'observation qui a été abattue par le général Patton au moment où il se présente au pont de Prunier, jugeant que cet ouvrage peut cacher des Allemands. Et donc, il fait tirer à boulet rouge, si je puis dire, sur cette tour d'observation. Bon, ça, c'est aussi une page de l'histoire.
Vous m'apprenez quelque chose.
J'en suis ravi. Les bunkers de Pignerolles, ça, c'est une page magnifique aussi de notre histoire.
Oui, voilà, une autre page d'histoire. Okay. Alors, les bunkers de Pignerolles, une association qui fait visiter ces bunkers qui ont un rôle important pendant la guerre, puisque c'était le centre de commandement des sous-mariniers allemands. Voilà, c'est contre-intuitif, parce qu'ils s'étaient mis là, loin des côtes, pour ne pas être bombardés. Voilà. Donc c'est à voir l'association des bunkers. Ouais.
Merci infiniment pour toutes ces informations, et vous nous donnez très envie de regarder et d'acheter votre livre.
Je vous en prie, avec plaisir.
Ah oui, auditeurs de France Culture, allez chez votre libraire préféré pour acheter le livre d'Étienne Bégoin, qui est vraiment une mine de découvertes. Pour chaque lieu, vous donnez tous les renseignements, les horaires d'ouverture, les prix d'entrée, les contacts. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'empête. Et mon mari, le président.
On a écouté Barbara, si la photo est bonne. Vous êtes toujours sur Radio Campus. La photo à l'honneur, cette fois, sur Franche Culture, avec Rose Lecomte, qui organise l'exposition Fragments, portraits et photos de rue à la galerie d'art V12 à Angers. 12 femmes photographes venues de toutes les régions de France croisent leurs regards. Isabelle, c'est à vous.
Rose Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Vous venez ici avec votre casquette de photographe, mais vous êtes aussi historienne de l'art.
En effet.
Pour nous faire partager une expérience d'immersion, et je reprends vos mots, sensible et fragmentée entre instants volés, regards croisés et scènes urbaines. Un joli programme. Alors dites-moi, Rose Lecomte, pouvez-vous d'abord nous définir ce qu'est la photo de rue ?
Oui, la photo de rue, c'est une photo qui nécessite une grande réactivité de la part du photographe, puisqu'en fait, on va capter très rapidement ce qui se passe dans la rue, souvent à l'insu même du sujet, qui bien sûr ne pose pas. Ce n'est pas une photo faite en studio, certainement pas. C'est au contraire vraiment des instants volés, très souvent volés, puisque le sujet lui-même ne sait pas qu'il est photographié.
Alors, votre exposition réunit 12 femmes photographes, dont vous-même,
oui.
Venant d'univers différents, avec des sensibilités variées, des lieux géographiques aussi différents. Mais alors, quel était l'objectif en réunissant ces femmes ?
Alors, l'objectif, c'était justement de montrer la diversité. Donc, c'est un collectif que j'ai créé avec une autre photographe. Et au départ, l'idée, c'était d'échanger, bien sûr, d'échanger sur nos pratiques photographiques, ce qui nous a donné envie ensuite eh bien, de nous réunir pour montrer différents regards sur le thème de la rue, la street photo ou photo de rue. Et nous l'avons intitulé « Fragment » puisque finalement, nous sommes tout à une petite échelle, le fragment de notre collectif, de notre unité, tout à fait.
Et puis, peut-être fragment, ça fait aussi appel à la façon dont vous allez présenter les photos dans l'exposition.
Oui, nous avons chacune 4 photos présentées. Et fragments, nous l'avons écrit au pluriel, puisque en fait, chacune de nous va montrer ce qu'elle estime être la photo de rue. La photo de rue, ce ne sont que des petits instants, des petits moments. On donne un petit morceau d'une histoire et la personne qui regarde la photo peut se l'approprier et continuer la suite de l'histoire.
Mais comment avez-vous choisi les photos ? Parce que j'imagine qu'il y en avait beaucoup.
Il y en avait énormément, bien sûr. Alors, chacune a proposé les photos qui étaient les plus significatives pour elle. Alors, on communique énormément. Nous sommes en lien depuis plusieurs mois. On communique plusieurs fois par jour. C'est un très, très gros travail en amont. Et donc, nous avons donné notre avis sur les photos des autres.
Et finalement, qu'est-ce que vous avez retenu ?
Ça, vous le verrez en venant voir l'exposition. C'est-à-dire qu'on a retenu surtout l'identité de chacune. C'était ça qui primait vraiment. L'idée, c'était de ne pas montrer quelque chose de trop semblable, mais de rester chacune dans notre identité, dans notre différence, tout en ayant une thématique commune qui est celle de la rue.
Et je voulais vous demander, vous n'avez pas imposé de thème dans le cadre des photos de rue. Alors pourquoi ?
Justement, pour laisser cette liberté d'expression. Dans notre collectif, il n'y a pas de chef. Pas d'hiérarchie, c'est très important, je le dis. J'ai créé avec une autre photographe ce collectif, mais je ne suis la chef de personne. Chacune s'exprime librement. Et donc, nous avons beaucoup réfléchi toutes ensemble au titre. Et Fragment nous a semblé le titre qui correspondait le mieux à nos désirs, à nos besoins, à notre manière de travailler. Donc, en fait, l'idée, c'était de ne pas du tout, justement, imposer une thématique, mais la thématique, c'est la rue. La rue sous-entend la présence de l'humain dans la photographie.
C'est pourquoi vous avez inclus des portraits aussi, alors,
oui,
j'imagine.
Tout à fait. Alors, les portraits qui sont présentés sont des portraits pour la plupart faits à Londres, parce que puisque notre photographe spécialiste de portraits donc est bilingue et elle réside souvent à Londres. Et donc, en effet, elle a capté dans la rue des personnages un peu qui sortent du commun. En fait, c'est l'idée.
Et ce sont des photos récentes ?
Oui, des photos toutes récentes ou qui datent d'un an ou deux.
Bon, vous avez proscrit les hommes dans cette exposition. C'est un parti pris.
Oh, non, tout simplement, c'est parce qu'en fait, nous nous sommes toutes rencontrées bizarrement sur les réseaux sociaux. Et en fait, au départ, l'idée, c'était vraiment de partager notre pratique photographique. Et puis, on s'est mise à discuter toutes ensemble et on a pensé que finalement, bon, on n'avait pas tellement envie que les hommes soient présents dans nos discussions. Alors, on n'a rien contre les hommes, hein, pas du tout. Et on espère qu'ils viendront nombreux. Mais voilà, donc on a préféré rester entre femmes.
Rose Lecomte, merci.
Merci à vous.
Rose Lecomte, Isabelle, merci beaucoup. L'exposition, elle aura lieu à Angers jusqu'au 3 octobre à la galerie Art V12 qui se situe 12 rue Val-de-Maine. Du mardi au samedi, 14h-18h et l'entrée est libre. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci beaucoup Sylvain pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.